Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, nous nous approchons de toi en Église ce matin pour te rendre un culte. Et nous répondons en cela, Éternel notre Dieu, à une sainte convocation. C'est toi qui nous appelles à venir, Éternel, dans ta présence, ton peuple réuni. Et nous voulons et pouvons témoigner ce matin, Seigneur, que comme le dit le psalmiste, tu t'es incliné vers nous. Tu as entendu notre cri, Éternel, lorsque confronté à notre péché, Seigneur, tu nous as révélé, Seigneur, notre misère, conduit à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Et dès lors, Seigneur, tu nous as retirés de la fosse de destruction, du fond de la boue, et tu as dressé nos pieds sur le roc. Tu as affermi nos pas, et aujourd'hui nous marchons en nouveauté de vie et nous voulons t'en rendre grâce et gloire, ô notre Dieu. Béni sois-tu de nous avoir conduits au salut. Béni sois-tu d'avoir fait de nous tes enfants, un peuple renouvelé, racheté, appelé, Seigneur, à proclamer tes louanges, à annoncer le salut en Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, bien que tu nous aies retirés de la fosse de destruction, bien que tu aies affermi nos pas, nous constatons encore aujourd'hui que, Seigneur, à bien des égards, bien souvent, journellement, nous t'offensons de diverses façons. Et ce matin, en Église, nous voulons, Seigneur, confesser nos péchés et nous souvenir avec cette confession que tu pardonnes et que tu purifies en Jésus-Christ de toute iniquité. Nous te demandons aussi, Éternel, notre Dieu, ce matin, la grâce de ta présence, afin que ta parole qui sera lue et prêchée ici, mais aussi à l'école du dimanche, Seigneur, soit entendue et reçue, Seigneur, avec une grande attention et une réelle soumission. Éternel, notre Dieu, notre prière, c'est non seulement que nous écoutions, que nous recevions, que nous appliquions, Seigneur, cette parole, mais que, en retour également, nous puissions te prier, Seigneur, te dire notre amour, notre consécration à toi, notre désir de te servir. Et pour ce faire, nous avons besoin du secours de la puissance de l'Esprit Saint. Éternel, il y en a parmi nous qui passent par des temps de souffrance et d'épreuves. Et ce matin, au début de ce culte, nous te les confions particulièrement. Te demandons, Éternel, d'être présent auprès d'eux, de les encourager, de les renouveler, de leur accorder ta paix, de les bénir. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs, Éternel, car ton Église se réunit partout dans le monde, dans cette ville, dans ce canton, dans ce pays et à l'extérieur. Et nous te demandons d'être avec ces frères et sœurs avec lesquels nous sommes en communion. Nous te demandons particulièrement la grâce de ton secours pour ceux qui sont appelés à prêcher en vérité cette parole que tu nous as laissée. Et nous pensons également, Éternel, à nos autorités, te demandant encore en ce jour et en ce début de semaine de les secourir, de leur accorder tes lumières. Et par-dessus tout, nous te prions pour ce monde qui se corrompt et qui se perd loin de toi, te demandant, Père, et te suppliant afin que tu en appelles un grand nombre au salut. Et nous te demandons ensemble que, si tu le veux bien, tu nous utilises comme témoins et que nous puissions nous réjouir en voyant des âmes éternelles être arrachées des ténèbres, transportées dans le royaume de ton Fils bien-aimé par la prédication de ta parole. Et si tu veux bien nous utiliser en cela, accorde-nous d'être trouvés fidèles et courageux dans cette proclamation de l'Évangile. Éternel, notre Dieu, nous te disons, te remettons toutes ces choses dans le beau et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à la lecture du texte de la prédication de ce matin. Nous ouvrons nos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Nous lirons les versets 1 à 11. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà le texte donc de la prédication de ce matin, lu dans la parole de Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole qui sera prêchée, non seulement ici, comme je disais dans la prière tout à l'heure, mais aussi dans quelques instants aux enfants à l'école du dimanche. Au chapitre 5 que nous avons considéré dimanche passé, vous vous souvenez que l'apôtre a abordé un sujet délicat, mais crucial pour la vie de l'Église en général. Il s'agissait de la question de la discipline à appliquer en cas de péché scandaleux. En effet, comme nous l'avions compris, nous l'avons compris déjà depuis que nous avons commencé cette épître, certains chrétiens de Corinthe avaient de la peine à rompre avec leurs habitudes païennes. Ils ne voulaient pas tirer les conséquences de leur foi dans la vie de tous les jours, et ils continuaient ainsi à vivre à la corinthienne, c'est-à-dire selon toutes les perversions qui étaient en usage dans leur ville, mais ils continuaient en même temps, néanmoins, de rendre un culte à Dieu. Et ces péchés publics étaient tels dans cette église qu'on faisait preuve à leur égard d'une attitude bien plus conciliante que dans le monde, que chez ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ainsi, aucune différence ou quasi aucune différence n'existait entre cette église et le monde. La sainteté du peuple de Dieu n'était plus qu'une illusion, ou presque plus qu'une illusion dans cette église. Et pour les quelques chrétiens qui demeuraient néanmoins dans cette assemblée, une question ou plusieurs questions se posaient donc, la première étant celle-ci, mais comment Dieu pouvait-il être honoré dans cette situation-là? Et une seconde, comment les païens pouvaient-ils prendre au sérieux le message de l'Évangile lorsqu'ils étaient ainsi confrontés à l'exemple de chrétiens aussi relâchés? Et c'est donc pour répondre à ces questions que l'apôtre révèle dans ce chapitre 5 le devoir qui s'impose à toute l'Église de réagir contre le péché lorsque celui-ci se manifeste ouvertement en son sein. Et entre autres donc de ce devoir qui s'impose à l'Église d'excommunier celui qui se dit frère, mais qui crée le trouble de façon scandaleuse dans l'Église, après avoir néanmoins été averti déjà bien des fois. Et dans ce sixième chapitre que nous abordons aujourd'hui, en tout cas sa première moitié, eh bien Paul aborde maintenant la question des procès que s'intentent entre les chrétiens de cette Église de Corinthe. Car ceux-ci étaient tellement habitués avant leur conversion, à se disputer, à contester les uns avec les autres, qu'ils ont conservé cette même habitude et cette même attitude égoïste dans leur vie chrétienne. Mais le problème, c'est qu'ils vont tellement loin dans leurs critiques et dans leurs envies les uns envers les autres, qu'ils en deviennent procéduriers. Et ils s'intentent ainsi mutuellement des procès devant les tribunaux païens. Et Paul n'en revient pas d'une telle attitude. De ce que ces croyants, au vu et au su des incroyants, eh bien, se permettent ainsi de s'intenter, comme je le disais, des procès. Et il pose cette question avec un ton abasourdi, « Est-il réellement vrai que certains d'entre vous intentent des procès aux autres, et ce même devant des tribunaux publics païens ?» Alors, soyons clairs, ce n'est pas que Paul soit en train de mettre en doute la capacité du magistrat païen de rendre la justice, même à l'égard de chrétiens, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes juridiques pointus. Et d'ailleurs, il évoque clairement, et vous le savez, le bien que peut apporter l'homme de loi dans la vie de la cité, en Romains 13, puisque les magistrats ont été donnés par Dieu. Ce qui trouble Paul, c'est que les croyants ont si peu de respect pour l'autorité et la capacité de l'Église de régler les différends qui surgissent en son sein. Et ce manque de confiance, ou ce manque de respect à l'égard de l'Église est tel que ces gens, ces chrétiens, font appel donc aux magistrats, à ceux du dehors. J'aimerais vous faire remarquer, chers frères et sœurs, ce matin, qu'il y a un lien évident entre les deux chapitres, le chapitre 5 et le chapitre 6. Car dans ces deux chapitres, Paul est en train de dire, en résumé, non seulement vous ne jugez pas ceux que vous avez mission de juger, ceux du dedans, ça c'était le chapitre 5, les laissant souiller l'Église, mais vous allez encore vous faire juger vous-même par ceux du dehors, par les païens. Et ça, c'est le chapitre 6. Tout cela n'est ni plus ni moins que scandaleux. Voilà donc le résumé, si vous permettez, de ce chapitre 5 et cette première partie du chapitre 6 de la part de l'apôtre Paul. Car pour Paul, ces chrétiens de Corinthe, étant membres du corps de Christ, étant des saints enrichis en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance, et à qui il ne manque aucun don. Je répète ce qu'il disait au chapitre 1. Ils n'ont donc pas à aller en dehors de la famille chrétienne pour régler leurs différends, puisque toutes les ressources sont là, au milieu de leur Église, au sein de leur Église. Ressources de vérité, de sagesse, d'équité, de justice, de bonté, de générosité et de compréhension résident parmi eux. C'est la raison pour laquelle l'apôtre leur rappelle, dans ces quelques versets que nous allons étudier un petit peu ce matin, il leur rappelle tout d'abord la légitimité qu'a l'Église de juger les conflits qui surgissent en son sein. Et il continue ensuite en dénonçant trois faits qui sont à leur honte. Tout d'abord, l'illégitimité de leur appel au jugement des magistrats. Il est illégitime que vous fassiez appel à des magistrats pour régler vos problèmes internes. Ensuite, l'absence d'hommes sages parmi eux. Et enfin, leur manque de patience les uns envers les autres. Et il termine cette exhortation par un avertissement solennel. Alors le titre de la prédication de ce matin, maintenant que nous avons vu ce qui se passe, et le sujet donc de ce chapitre 6, le titre est celui-ci, « La honte des procès entre chrétiens ». Et j'aurai donc trois points. Tout d'abord, la légitimité du jugement de l'Église. Ensuite, le deuxième point, trois sujets de honte. Et le troisième, un avertissement solennel. Premier point, la légitimité du jugement de l'Église. Ce sont les versets 2 et 3. Donc, je le répète, selon le titre, dans ces deux premiers versets, Paul établit clairement la légitimité et donc le devoir qui s'impose à l'Église de régler les dissensions ou conflits qui peuvent surgir en son sein. Et il le fait au moyen de deux arguments eschatologiques, c'est-à-dire qui concernent la fin des temps. Par ces arguments, il montre à ces chrétiens de Corinthe que puisque Dieu leur fera l'honneur au terme de toutes choses de juger les incroyants et les créatures célestes, alors, il est légitime qu'il juge déjà ici-bas de choses bien moins importantes dans le cadre de leur vie d'Église, plutôt que de faire appel, comme ils le font, aux juges de ce monde. Je vous propose de considérer rapidement les deux arguments eschatologiques de l'apôtre. Le premier, Paul commence au verset 2 en leur rappelant ceci, qu'au jugement dernier, lorsque Christ les aura parfaitement affranchis du péché et de la mort, eh bien, il les rendra alors participants de son autorité. C'est ainsi que ses enfants prendront alors part avec lui au jugement qu'il prononcera sur l'erreur et le péché de ceux qui l'auront rejeté ici-bas. Alors imaginez la scène, chers frères et sœurs. Le monde entier, petits et grands, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, le monde entier sera ce jour-là face à face avec Dieu pour lui rendre des comptes. Et nous serons, en tant qu'enfants de Dieu, associés à ce moment-là à l'acte de jugement de notre Sauveur. Et il y a quelque chose de pathétique dans ce que je suis en train de dire et dans ce que souligne l'apôtre. Ce qu'il y a de pathétique, c'est que ce fait capital qui arrivera incontestablement à la fin des temps, au jugement dernier, est encore aujourd'hui ignoré de nos contemporains. En effet, hommes et femmes aujourd'hui sont emportés par le tourbillon de l'existence et ne pensent pas, ou tout simplement ne veulent pas penser à ce qui les attend et que nous révèle l'Écriture. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Voilà ce qu'il y a de pathétique. Et voilà ce qui nous impose, justement, d'annoncer le message de l'Évangile aujourd'hui, selon le commandement de notre Seigneur. Ainsi donc, pour revenir au texte, par l'unité étroite, par l'unité intime qui existe entre Christ et ses rachetés, Paul rappelle que Dieu va associer donc ses enfants au jugement final que Christ prononcera sur tous ceux qui l'auront rejeté. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième est celui-ci, au verset 3. Paul rappelle maintenant à ses destinataires qu'ils seront aussi appelés à juger les anges. Nous voyons donc que le cercle est en train de s'élargir au domaine céleste. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que le Seigneur exerce son autorité suprême, non seulement sur les hommes, mais aussi sur toutes les créatures spirituelles, célestes, et les anges, bien entendu, en font partie. Alors nous comprenons donc, comme précédemment, ce matin, toujours que selon cette union existante entre ses rachetés et lui, eh bien le Seigneur, Jésus-Christ, associera son peuple à ce moment extraordinaire qui consistera également à juger les anges. Ainsi, et pour résumer, nous pouvons affirmer ce matin que nous, croyants, nous serons appelés à juger au dernier jour non seulement des personnes et des événements de ce monde visible, mais aussi des êtres angéliques et de leurs œuvres dans les lieux spirituels. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, même si nous ne sommes pas encore les juges parfaits qui jugeront le monde et les anges, néanmoins, pour différentes raisons que je vais évoquer maintenant, nous avons à juger de ce qui concerne notre Église. Parce qu'étant le peuple du Seigneur, parce que régnant déjà ici-bas, même si ce n'est pas parfaitement, ayant donc autorité, parce qu'étant aussi rempli de l'Esprit Saint qui illumine nos cœurs, qui nous permet de comprendre les choses de ce monde telles qu'elles sont réellement à la lumière de sa parole, parce qu'étant encore au bénéfice d'une œuvre de sanctification par laquelle Dieu aiguise notre conscience et nous accorde du discernement, et parce qu'étant finalement, comme nous venons de le lire, appelé plus tard à exercer une responsabilité de jugement sur tous les hommes et sur les anges, alors nous pouvons et nous devons légitimement assumer nos responsabilités. Comment ? Eh bien, en réglant les conflits qui surgissent au niveau ecclésial. Nous en avons la responsabilité. Ce qui peut nous amener jusqu'à ôter le méchant du milieu de nous. C'est ce que nous avons vu au chapitre 5. À l'image de ce qui se passera à une échelle beaucoup plus grande au jugement dernier. Et nous devons faire cela à la place des magistrats de ce monde qui, tout aussi sages et honnêtes, et droit qu'ils puissent être, parfois, n'ont pas reçu de Dieu cette prérogative de juger des affaires de l'Église. Chers frères et sœurs, nous devons donc comprendre, je pense avoir été clair ce matin, qu'il est de notre devoir de ne pas renoncer à l'honneur et à la prérogative que Dieu nous a accordée en termes de jugement de conflits à l'intérieur de l'Église, pour préserver sa sainteté. Car c'est cela qui est en jeu. Et c'est ainsi, je vais être un peu plus clair, que l'outrage, c'est ainsi que la calomnie, c'est ainsi que le vol, c'est ainsi que la violence, c'est ainsi que l'impureté, que la jalousie, que les insultes, que la convoitise, et tous les fruits de ces péchés que je viens de citer maintenant, devraient être réglés dans le cadre de l'Église. Nous devrions être capables, en vertu de notre statut actuel, mais aussi futur, d'assumer avec sagesse et grâce cette tâche parmi nous. Mais il y a, bien entendu, et vous l'avez compris, je l'ai dit, ou j'ai abordé rapidement cela il y a quelques minutes, il y a bien entendu des limites à un tel jugement. Nous vivons dans un état de droit, aux lois duquel nous devons nous soumettre, et il y a des prérogatives qui sont réservées aux magistrats que nous devons respecter. C'est évident. Et dans ce sens, nous avons parfois besoin, en tant que chrétiens, des lumières, voire même de l'intervention du magistrat. C'est d'ailleurs, je le répète, la raison pour laquelle Dieu a donné le magistrat à la cité. Mais cette intervention pour les chrétiens ne devrait être que pour des cas peut-être très pointus, très particuliers, ou alors en dernier ressort, à la honte de l'Église. Et malheureusement, c'est ce qui ne se passait pas à Corinthe, puisque tout était d'emblée déballé sur la place publique. Alors pour résumer ce point, disons que Paul dit ici qu'étant donné leur statut d'enfant de Dieu, déjà ici-bas, plutôt que de se donner lamentablement en spectacle aux yeux du monde et des autorités spirituelles qu'ils auront à juger plus tard, eh bien les chrétiens feraient bien d'acquérir un peu de jugeote, un peu de discernement, un peu de courage pour tenter de résoudre les conflits dérisoires qui les opposent ici-bas, en assumant leurs responsabilités. Et je dirais ceci, les conflits dérisoires, mais qui portent une grave atteinte à la gloire de Dieu et à la sainteté de l'Église. Eh bien, que tel soit le cas parmi nous, que nous puissions assumer, nous, cette responsabilité. Je passe maintenant au deuxième point. Trois sujets de honte. Nous continuons d'avancer dans ce texte. Paul a donc établi la légitimité et le droit de l'Église de juger les conflits interpersonnels en son sein. Maintenant, il continue son développement en dénonçant trois sujets de honte, qui sont ceux-ci. La honte de devoir faire appel au monde pour résoudre les conflits fratricides. La honte ensuite de n'avoir personne d'assez sage dans l'Église pour régler les conflits. Et la honte enfin de n'avoir pas pu supporter avec patience quelques souffrances dans l'Église. Évidemment, nous allons considérer ces trois sujets de honte. Tout d'abord au verset 4, la honte de devoir faire appel au monde pour résoudre les conflits ou les luttes fratricides. En ce verset 4, qui, je ne vous le cache pas, fait couler beaucoup d'encre, car il est assez difficile à interpréter du fait des différentes versions existantes, Paul dénonce, je le redis encore, à leur honte, l'hypocrisie des Corinthiens lorsqu'ils font appel aux magistrats. En effet, c'est pour ça que je parle d'hypocrisie, habituellement, ces chrétiens regardent de haut les païens qui les entourent, se vantant d'appartenir à Dieu et d'avoir ce que n'ont pas ces païens, c'est-à-dire de la sagesse et du discernement qui vient de Dieu. Je vous rappelle néanmoins que le monde leur rend bien ce mépris. Mais dès qu'un conflit éclate entre frères au sein de l'Église, ces frères qui pourtant se vantent de leur sagesse et de leur discernement, dès qu'ils se sentent lésés, si peu que ce soit dans leurs intérêts matériels ou concernant leur réputation, eh bien, il n'y a à ce moment-là de salut pour eux que dans la justice et dans la justice du monde, dont ils ne prétendent habituellement ne faire aucun cas. Lorsqu'il s'agit pour ses frères et sœurs de défendre leur profit, de défendre leur gain ou de défendre leur honneur, eh bien, ces chrétiens de Corinthe ne se soucient pas de savoir comment régler les choses chrétiennement et spirituellement. En définitive, ils n'attendent aucun secours de l'Église. À leurs yeux, l'Église n'est bonne qu'à bercer leur âme. Ce n'est qu'un lieu peut-être de méditation, ce n'est qu'un lieu peut-être de discours philosophique, mais lorsqu'il s'agit des choses sérieuses de cette vie, lorsqu'il faut défendre son droit, lorsqu'il faut défendre son honneur, lorsqu'il faut surtout défendre son porte-monnaie, Alors là, l'Église ne rentre pas en ligne de compte. Il n'y a pas à être spirituel dans ces cas-là. Il faut défendre son beefsteak coûte que coûte. Il faut être viril, ça c'est une affaire d'homme. Ce n'est pas l'Église. Maintenant, on est dans des choses sérieuses. Il faut donc régler ces choses-là, sans pitié, devant les autorités, même si l'on est frère en Christ. Et je vous pose cette question, chers frères et sœurs, ce matin, est-ce que ce n'est pas encore bien souvent, aujourd'hui, la tendance dans le monde chrétien? Alors on vient au culte, on écoute la parole de Dieu prêchée, on sourit lorsqu'une vérité est annoncée, on se repaît de ce qui est dit, on approuve intérieurement, on va même hocher de la tête positivement en écoutant le prédicateur, mais lorsqu'un problème sensible surgit entre frères, financier, familial, professionnel, etc., alors à ce moment-là, pas question de faire du sentimentalisme. Pas question de laisser bafouer ses droits, pas question de se faire avoir. Il faut prendre les choses en main et faire payer l'outrageux en faisant appel au magistrat. Et c'est ainsi que l'on fait fi d'un règlement paisible et droit dans le cadre ecclésial de l'affaire. On oublie tout à coup les applications pratiques que l'on a entendues lors des prédications à l'Église et qui traitaient justement de ce problème qui nous assaille à ce moment-là. On oublie surtout que la vie de l'Église est une vitrine, un témoignage qui montre au monde comment vivre différent à la gloire de Dieu, même lorsqu'il s'agit, et surtout lorsqu'il s'agit de régler ses problèmes. Voilà la raison pour laquelle on ne va pas chercher, ou même voilà la raison pour laquelle on ignore ou on méprise les conseils et les avertissements pastoraux qui sont alors rangés au rang des prêchis-prêchats. Et à titre d'illustration, voilà comment, en fin de compte et pour la honte de l'Église, un frère et une sœur vont se retrouver devant un juge de conciliation à propos d'un futur divorce. Voilà comment une sœur va peut-être porter plainte contre son mari pour violence conjugale. Voilà encore comment un frère va en placer un autre aux poursuites pour non-paiement d'une facture, etc. On pourrait multiplier les cas car il y en a beaucoup malheureusement. Voilà comment, en définitive, on va réagir à notre honte comme des incroyants. Et c'est en réagissant ainsi que l'Église n'est finalement plus qu'un lieu où l'on se fait du bien, où l'on apaise sa conscience, mais certainement pas un endroit où l'on apprend à vivre les uns avec les autres, selon Dieu, et à sa gloire dans tous les domaines de sa vie. Peut-être au prix de l'humiliation et de la repentance lorsque cela est nécessaire, car il peut y avoir des cas de conflit dans l'Église, où l'on est confronté à son péché, où l'on doit s'humilier devant Dieu, demander pardon, pour se relever ensuite et marcher en nouveauté de vie. Chers amis, permettez-moi ces questions quant à ce premier sous-point, ou ce premier sujet de honte. Est-ce que la parole prêchée, dans le cadre de l'Église, est votre seule norme de vie et de foi, utile pour vous enseigner, pour vous convaincre, pour vous redresser, pour vous éduquer, afin, comme le dit Paul à Timothée, de vous rendre utile à toute bonne œuvre, ou apte à toute bonne œuvre. Deuxième question. Croyez-vous qu'il y a une façon biblique de gérer ses biens, de vivre en couple, d'élever ses enfants, de gérer sa profession, de régler ses conflits en famille, au bureau et à l'église? Troisième question. Est-ce que les bergers dans l'église ont cette responsabilité de prendre soin de vous afin de vous exhorter à une vie sainte? Si vous répondez oui à ces questions, alors ce n'est pas un QCM, ce n'est pas un examen, mais si vous répondez oui à ces questions, alors cela signifie que vous reconnaissez à l'Église son autorité en termes de règlement de conflits, lorsqu'il y a des conflits en son sein. Et si tel est le cas, si vous le reconnaissez, alors sachez vous attendre et vous soumettre à son autorité le jour où peut-être vous aurez besoin de son intervention. Si par contre, vous répondez non, alors vous êtes dans la situation des Corinthiens auxquels Paul est en train d'écrire. Une situation de rébellion qui devrait vous amener à vous remettre réellement et profondément en question devant Dieu. Car c'est à Dieu que vous résistez. Le deuxième sujet de honte, la honte de n'avoir personne d'assez sage pour régler les conflits. ce sont les versets 5 et 6. Paul dénonce donc maintenant, toujours à la honte de ses Corinthiens, que dans une église qui se glorifie pourtant d'être assez riche en sagesse et en connaissance, pour se livrer, vous vous rappelez, aux plus hautes spéculations philosophiques, il ne se trouve, malheureusement, personne qui soit assez habile pour servir d'arbitre dans les petits conflits. Personne qui soit capable de procurer la paix et d'arranger les affaires entre les frères. Personne. Une église pourtant si brillante. Au point qu'il faut aller chercher du secours, donc, chez les païens. Quelle marque d'indigence! Quelle honte pour l'église! Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre. Et dans ce sens, chers amis, vous qui vivez cette vie d'église ici à Lausanne, l'église réformée baptiste de Lausanne, eh bien, je vous invite à prier et à supplier Dieu afin qu'il nous accorde des hommes sages, courageux, remplis de discernement, de droiture dans notre assemblée, des hommes qui puissent prononcer un jugement selon la vérité lorsqu'il y a dissension entre frères. Je vous invite à prier pour que leur autorité soit reconnue de tous. Je vous invite à prier en premier lieu pour les responsables de l'Église, à qui incombe donc cette tâche. Paul explique au verset 6 que l'absence de tels hommes dans l'Église conduit immanquablement à un déballage de misère et de fange aux yeux des incroyants. Les chrétiens en conflit les uns avec les autres, n'ayant finalement d'autre solution que de régler leurs différends devant les tribunaux, on répand, donc comme je le disais, cette misère et cette fange aux yeux de tous. Alors sachons ceci. Lorsqu'on passe devant un magistrat, peut-être épaulé par un avocat, en tant que chrétien, contre un autre chrétien, la sagesse du repentir, de l'amour et du renoncement à soi qui caractérise les relations dans le cadre de l'Église n'existe plus. À ce moment-là, il faut se soumettre à la sagesse du monde, à la loi du plus fort. Et il s'agit à ce moment-là de plaider, il s'agit d'attaquer, il s'agit d'accuser, il s'agit de jouer au plus fin pour faire plier coûte que coûte celui qui n'est plus un frère en Christ ou une sœur, mais un adversaire que l'on doit vaincre ou abattre. Résultat des courses ? Division ? Divorce ? Inimitié, beaucoup de frais, mais surtout beaucoup de souffrance. Pour les protagonistes, tout d'abord. Pour leurs enfants, ensuite, lorsqu'il s'agit de problèmes de couple et combien il y en a. Pour l'Église, bien entendu. Mais surtout, quel déshonneur pour Dieu. J'aborde finalement, à la fin de ce deuxième point, la honte, le troisième sujet de honte, celui de n'avoir pas pu supporter avec patience quelques souffrances dans l'Église. Ce sont les versets 7 et 8. Donc Paul termine ainsi, en soulignant dans ces versets que les chrétiens qui intentent des procès à d'autres chrétiens ont déjà perdu spirituellement la partie. Car en faisant ainsi, il jette le discrédit sur l'Église et sur le Seigneur lui-même. Selon l'apôtre, la bonne attitude consiste plutôt pour un chrétien qui est dans son bon droit de souffrir et de se laisser dépouiller plutôt que d'intenter un procès à un frère dans la foi. Selon Paul, une perte matérielle est préférable à ce que le nom du Seigneur et la réputation de l'Église soient traînés dans la boue devant et par les païens lors d'un procès. Chers frères et sœurs, que devons-nous comprendre ? Nous devons comprendre ici que même lorsque nous sommes clairement dans notre droit selon la loi, nous n'avons pas le droit moral et spirituel d'insister sur ce droit légal devant un tribunal du monde. Il vaut mieux souffrir quelques pertes, selon l'apôtre, quelques pertes matérielles ou morales, plutôt que d'éclabousser l'Église, le Seigneur et la foi chrétienne à cause de notre différend avec un frère. La bonne attitude à avoir lorsqu'un frère nous a fait un tort quelconque, devrait être d'adopter à son égard un esprit de pardon et de laisser l'issue de la chose entre les mains de Dieu. Vous savez, le Seigneur peut donner et peut reprendre souverainement. Et nous devons nous souvenir de ceci, c'est que sa volonté s'exerce tout aussi bien dans ce que nous gagnons que dans ce que nous perdons. Rien ne sort de son autorité, de sa conduite providentielle. J'aimerais ajouter ceci par expérience pastorale personnelle. La seule personne qui soit vraiment gagnante lorsqu'il y a un procès entre des croyants, et j'en ai connu, et parfois des graves, même entre anciens d'une église, un pasteur qui portait plainte contre tous les anciens de son assemblée. Le seul qui soit vraiment gagnant à ce moment-là, c'est le diable. Parce que ces procès ne font finalement, je le répète, que jeter la honte et le discrédit sur l'église et la foi chrétienne. Seul l'ennemi en tire un réel avantage. Alors ne lui accordons pas cette joie. Mais autant que faire se peut, prions, et je vous y invite encore une fois, à ce que tous ces conflits puissent être réglés dans le cadre de l'Église. Je termine par cet avertissement solennel, ce sont les versets 8 et 10, troisième point qui servira également de conclusion à ce message. Le comble, selon Paul, dans cette Église de Corinthe, c'est qu'il n'y aurait pas de procès s'il n'y avait pas parmi ces chrétiens des gens qui sont agressifs, des gens qui sont particulièrement jaloux, des gens qui sont avides, qui cherchent par tous les moyens à s'enrichir aux dépens des autres frères et sœurs, et en les traînant en particulier devant les tribunaux. Et l'avertissement de l'apôtre au verset 9 est on ne peut plus clair contre ces loups qui détruisent pour une vaine gloire ou par appât du gain la réputation de l'Église, la gloire du Seigneur et l'honneur de leurs frères lorsqu'ils les traînent devant des tribunaux. Pour l'apôtre, si ces gens continuent ainsi à se complaire dans l'injustice, dans les querelles et dans la cupidité, eh bien, ils s'excluent eux-mêmes de la grâce. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. À propos de ce jugement de l'apôtre Paul, nous pouvons également citer ce verset d'Hébreux 10, 26, qui dit ceci, « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu dévorera les rebelles. » Et puis finalement, dans ces versets 10 et 11, après cet avertissement ô combien solennel, je le répète, Paul semble poser plusieurs questions à ces injustes. Pourquoi continuez-vous à vivre ainsi comme ceux qui ne sont pas sauvés? Peut-être que ces questions se posent à vous ce matin. Pourquoi est-ce que vous retombez dans les manières de faire de votre ancienne vie avant que Christ ne vous sauve? Pourquoi vivez-vous selon vos anciennes normes, selon vos anciens motifs égoïstes et impies? Et en particulier, pourquoi avez-vous recours aux tribunaux du monde? Vous devriez au contraire être séparés des façons de vivre du monde et non les imiter. Vous devriez vivre une vie qui soit en accord avec sa purification, avec sa sanctification et sa justification. Voilà ce qu'est en train de dire l'apôtre. Pourquoi toutes ces choses et voilà ce que vous devriez vivre. Et prenons ces termes, laver, justifier, sanctifier, qu'emploie l'apôtre. Oui, chers amis, la vie du chrétien doit être pure, sainte et juste. La vie nouvelle qui lui a été communiquée doit produire chez lui une nouvelle façon de vivre. C'est ce que Paul dit à ses frères, ils agissent ainsi et c'est ce que nous entendons ce matin. Le mot « laver » employé au verset 11. Pour vous permettre de le comprendre, j'ai pris ce verset de Jude qui dit ceci, qui nous apprend que Jésus nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Régénérés. Vous êtes sanctifié, et ce mot sanctifié fait référence quant à lui au fait que Dieu a mis à part son enfant pour lui, et l'appelle donc à vivre une vie différente, une vie en accord avec son nouveau statut d'enfant de Dieu. La domination totale du péché est brisée, et elle est remplacée par une vie de sainteté dans laquelle l'enfant de Dieu est appelé à mettre à mort le péché qui refait, c'est vrai, régulièrement surface, comme nous le voyons ici. Il leur dit donc, vous ne devriez pas vivre ainsi, vous devriez vivre comme des chrétiens lavés, sanctifiés, mis à part pour Dieu, justifiés aussi. Et ce mot justifié parle d'une nouvelle position devant Dieu. Je vous le rappelle, étant en Christ, en tant que chrétien, nous sommes revêtus de sa justice. Dieu nous voit vêtus de la justice de son Fils plutôt que de notre péché. La justice de Christ a été portée à notre compte lors de notre conversion. Dans cette nouvelle nature qui est la nôtre, nous sommes déclarés et rendus justes, saints et innocents, parce que Dieu justifie celui qui a la foi en Jésus. Ainsi donc, dit l'apôtre à ces gens, ainsi donc, nous dit l'apôtre ce matin, une vie transformée devrait produire une façon de vivre transformée, ce qui n'est malheureusement pas leur cas. Et j'ose croire que on ne peut pas dire la même chose pour vous ce matin, chers frères et sœurs. Alors, je dirais ceci pour conclure. Que Dieu nous accorde à tous, qui sommes ses enfants, de renoncer à notre vie d'autrefois, de mettre à mort le péché qui est dans nos vies, de nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, si toutefois nous lui appartenons. Que Dieu nous accorde de vivre selon ce nouveau statut qui est le nôtre, plutôt que de porter atteinte à nos frères et sœurs, à la sainteté de l'Église et à la gloire de Dieu. Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Éternel notre Dieu, accorde-nous de nous rappeler ce matin de cet avertissement solennel de Paul qui dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Garde-nous ainsi, ô notre Dieu et Père, de porter atteinte à ton Église, à ton honneur, en outrageant nos frères et sœurs. Éternel, comme il est rappelé à la fin de ce texte, pour nous qui sommes tes enfants, tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés. Accorde-nous donc, Père, de vivre en accord avec cette œuvre souveraine de salut que tu nous as accordée en Jésus-Christ, par laquelle, Éternel, nous sommes des hommes et des femmes nouveaux et nous avons par voie de conséquence à vivre ainsi, cette vie nouvelle. Éternel, accorde-nous dans ta grâce la victoire sur notre péché, sur ce péché qui revient si facilement, qui nous colle si facilement à la peau. Accorde-nous, comme il est dit dans l'Épître aux Romains, de nous considérer comme étant morts au péché et vivant pour toi en Jésus-Christ. Et Père, que tous les moyens que tu nous accordes, la vie de l'Église, le culte, l'étude biblique, d'autres manifestations, la lecture de ta parole, la méditation de cette parole, la prière, la communion fraternelle, ce repas que nous allons prendre dans quelques instants, qui fait partie de ces ordonnances que tu nous as laissées, que tous ces moyens de grâce, Seigneur, soient utiles ou utilisés par toi dans nos vies, Père, pour nous sanctifier, pour ne pas être injustes, pour ne pas être outrageux, pour ne pas, Seigneur, te déshonorer et porter atteinte à ton Église et à nos frères et sœurs. Nous te prions cela, dans le beau et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.